R22, tout le monde. Antenne cadiste.
Donc, merci d'être avec nous ce soir. Ça va être une soirée un petit peu à tiroir. On va parler deux langues. Donc, on va commencer avec une introduction en français et après, on va avoir le plaisir d'entendre Asha Salty en anglais. On va à la fois lancer le numéro d'une revue, faire un passage de relais d'un projet et puis avoir une lecture de texte. Donc, on va avoir différents formats aussi de prise de parole. Je vais essayer d'être pas trop longue, mais de mon côté, je voulais un petit peu redonner le contexte de la naissance de la revue Kalkala, qui nous réunit ce soir, qui est donc un projet éditorial qui a été fondé par plusieurs institutions, Cadiste, qui est là ce soir, ou là où vous êtes, et Béton Salon, Villa Vassiliev, dont on a plusieurs membres de l'équipe aussi qui sont avec nous ce soir. Et on a fait paraître le premier numéro en mars 2015. Le nom Kalkala, en fait, est le nom d'un personnage créé par Sarah Rifki, qui est une commissaire d'exposition, qui participait au premier numéro, notamment de Kalkala, et qui a accepté de donner le nom à la revue, et qui, l'auteur faisait une sorte de récit d'anticipation, où dans un futur proche, les notions d'art, de langage, d'économie devenaient complètement obsolètes. On a voulu créer ce projet éditorial partagé entre plusieurs institutions et avec l'espoir qu'il puisse même devenir une plateforme vraiment collaborative destinée à plus d'institutions encore, ou à plus de participants, disons, afin de donner un petit peu une perspective à des sujets qu'on traitait dans nos programmes. Ça, c'était un peu le point de départ. De prolonger, de ne pas clôturer les débats qui étaient posés dans des expositions ou dans des événements, et notamment parce qu'on trouvait des affinités entre nos programmes, entre Cadiste et Béton Salon, sur des questions, à la base sur la question de décoloniser la pensée, et des sujets qui essayaient de donner de faire appel et de donner une visibilité à des références décentrées, disons. Et puis, Kalkala a ce sous-titre d'être un reader, donc ce mot en anglais, qui, effectivement, était une manière de venir apporter un complément, de donner une plateforme pour des contributions nouvelles ou des traductions. C'est une revue entièrement bilingue, anglais-français, qui était diffusée principalement par email, via le web, téléchargeable sur les deux sites des institutions. Ce qui était important pour nous aussi, c'était de donner, je pense, une place à différents modes d'écriture. Donc, on y retrouve des contributions qui sont à la fois des textes assez académiques d'historiens de l'art ou d'historiennes de l'art, des contributions écrites ou visuelles d'artistes, et aussi des modes d'écriture que j'appellerais, faute de mieux, créatives ou fictionnelles. Et c'est un peu ça aussi qu'on va célébrer ce soir avec Asha Salty, que je remercie chaleureusement d'être là avec nous ce soir. Et finalement, ce type d'écriture aussi qui montre peut-être un peu aussi une crise de l'écriture critique ou une crise des supports de texte dans le champ de l'art. Et voilà. Je dis quelques mots sur les participantes de la soirée au fil de mon introduction. Donc, Asha Salty est auteure et commissaire d'exposition spécialisée en art visuel et cinéma, qui vit entre Beyrouth et Berlin, et qui vient régulièrement à Paris parce que tu t'occupes de la programmation de la Lucarne pour Arte depuis 2017. Alors, aujourd'hui, on va lancer le numéro 3 de Kalkala, qui a commencé, on était en train de se rappeler avec Lotte Arndt, que je remercie également et que je présente, qui est théoricienne culturelle et qui est la rédactrice en chef invitée du troisième numéro. Donc on se remémorait avec Lotte le fait que le numéro 3 a commencé il y a pas mal de temps. On avait changé en fait la formule qui à la base, sur les deux premiers numéros, était assez dense avec beaucoup de textes et sortait d'un seul coup en fait. Et on avait opté pour le troisième numéro pour un moins de contributions dispersées un petit peu sur une année, 4 textes en tout. Et finalement, cet événement vient un peu clôturer ce numéro et le lancer en même temps. Alors, Dans quelques instants, on aura aussi Virginie Bobin, qui est à côté de moi, qui va présenter la suite de Calcala, parce que c'est aussi une soirée un petit peu symbolique dans la mesure où on passe un peu la main de Cadiste et Béton Salon à un nouveau comité éditorial. C'est une revue qui va avoir une autre histoire et qui va continuer. Et je souhaite beaucoup de chance et de richesse à cette nouvelle aventure. Et j'en profite pour remercier évidemment toutes les personnes des deux équipes, avec l'intervention de Inti, présente et passée de Cadiste et Béton Salon Villa Vassiliev. Évidemment, Virginie Bobin, Victorine Gratalou et aussi particulièrement Léna Monnier et Elodie Royer du côté de Cadiste, qui ont vraiment vu la naissance de ce projet, son développement et puis sa suite maintenant. Et les graphistes aussi, syndicats, puis ensuite Guillaume Ettinger et Jérôme Valton, parce qu'on a eu deux équipes de graphistes également, donc c'est un projet qui réunit beaucoup de monde. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Donc je te passe la parole et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, Émilie. Merci à Cadiste de nous accueillir et de m'avoir invitée, à Loteux et Racha d'être là. Et je voulais aussi prendre le temps, même s'ils sont nombreux, de nommer toutes les personnes de Béton Salon et de la Villa Vassiliev qui sont là ce soir et qui ne sont pas forcément créditées en tant que rédacteurs ou rédactrices de la revue, mais sans qui la revue n'existerait pas. En fait, ils font ce travail de maintenance quotidien, de la nommer dans les newsletters, de la publier sur notre site. Donc Audrey, Caroline, Hélène, Sama, Lucas, Alice, Camille, Boris, je crois que j'ai nommé toutes les personnes qui étaient là. Merci beaucoup parce que vous avez vous aussi contribué à faire exister ce projet publiquement. Et donc moi j'interviens effectivement ici en tant que membre du comité de rédaction des trois premiers numéros auxquels j'ai contribué depuis Béton Salon et la Villa où j'étais responsable des programmes jusqu'au printemps dernier, mais surtout comme le disait Émilie, pour vous dire quelques mots du projet de donner une nouvelle vie à Calcala sous une forme indépendante et associative que je suis en train de développer avec la commissaire d'exposition Victorine Gratalou, mon ancienne collaboratrice et collègue à la Villa Vassiliev, qui est actuellement directrice adjointe du CNEAI et qui s'excuse de ne pas pouvoir être ici ce soir, mais qui est en pensée et de cœur avec nous. Comme Émilie vient de l'expliquer, ce numéro 3 que vous allez découvrir ce soir grâce à Loteux et Racha marque la fin de l'aventure de Calcala sous la forme sous laquelle vous la connaissiez jusqu'à présent. Et en fait, Victorine et moi, on a souhaité, conscientes de la richesse des échanges que la revue avait suscité, du réseau aussi assez dense de collaborateurs, d'interlocuteurs, d'amis qu'elle a permis de créer, des contenus qu'elle a produits, on a souhaité lui donner une seconde vie et une nouvelle forme avec l'accord donc de Cadiste, de Béton Salon, mais aussi évidemment de Sarah Rifki, puisque la revue n'existerait pas sans ce personnage de fiction qu'elle a créé et qu'on espère continuer à faire vivre aussi au gré des prochains épisodes de Calcala. Donc Calcala est ressuscité déjà, sitôt interrompu, elle réapparaît, c'est une personne très résiliente et donc elle est ressuscitée sous la forme d'une association à but non lucratif et je voudrais remercier ici notre nouveau CA donc, qui est composé de Lotte Arndt, de Natacha Pétressine Bachelès et de Léna Monnier, la famille encore une fois, c'était important pour nous aussi de continuer à travailler avec des personnes qui étaient engagées dans l'aventure dans la première aventure de Calcala comme un socle d'amitié, d'alliés pour, qui va s'étendre et s'augmenter on l'espère dans les mois qui viennent. Et donc le but de Calcala est, dans l'héritage de ce qui existait jusqu'à présent, de créer une plateforme d'échange entre artistes, théoriciennes, théoriciens, chercheurs engagés dans l'articulation de problématiques artistiques, politiques et sociales qui soient donc décentrées de références strictement européennes ou nord-américaines. Et c'est un travail, comme l'a expliqué Loteux, qui est passé beaucoup aussi par la traduction. Et ces opérations, ces processus de traduction vont être au cœur du nouveau Calcala, puisqu'on a l'ambition de travailler en trois langues, le français, l'arabe et l'anglais. Calcala existait jusqu'à présent en français et en anglais. C'est disons, une sorte de bilinguisme avec lequel on a l'habitude de se confronter. C'est pour beaucoup d'entre nous des langues de travail quotidiennes et on a eu envie d'y ajouter l'arabe pour des raisons qui sont à la fois intimes et personnelles de relations, disons, amicales et professionnelles que Victorine et moi avons avec des personnes et des milieux et des œuvres arabophone, mais aussi parce qu'il nous semble intéressant de compliquer un petit peu ce rapport d'accès au savoir que l'on a pour beaucoup d'entre nous et qui passe principalement par le français et par l'anglais, et de voir ce que ça signifie d'ajouter la langue arabe à ce dialogue qui existe déjà en français et en anglais. Donc ce qu'on aimerait faire à terme, c'est engager, donc poursuivre ce travail voilà, de traduction, de réédition, de circulation de textes, pas forcément dans les trois langues, mais dans une ou deux de ces trois langues à chaque fois. Et donc, voilà, je vais aller un petit peu plus vite pour pas prendre trop de temps sur cette soirée. On a essayé de formaliser un petit peu des enjeux qu'on aimerait travailler avec cette revue. Donc favoriser, comme je l'ai dit, les rencontres et la circulation des idées et des savoirs entre artistes, théoriciens, chercheurs, chercheuses, étudiantes et plus largement d'autres publics de lectrices et de lecteurs. S'appuyer sur les recherches d'artistes et de théoriciennes de tous champs, mais aussi de militantes ou d'autres personnes concernées pour proposer des récits pluriels, subjectifs et non eurocentrés qui prennent en charge des questions notamment de colonisation, de décolonisation, de migration qui semblent prendre beaucoup d'espace dans le discours médiatique, théorique et artistique aujourd'hui et de voir comment on peut contribuer à les mettre en discussion. Et en faisant cela, affirmer le rôle de l'art et de la recherche artistique dans la compréhension des problèmes publics qui agitent notre monde contemporain et leur capacité à proposer des modes de présentation et d'intervention inédits, en mettant l'accent sur des pratiques qui soient sensibles aux enjeux du féminisme. Bon, je ne vais pas lister tous ces enjeux parce qu'on vient de discuter en quoi ils étaient très souvent utilisés pour labelliser des politiques de subvention et donc ça devenait des étiquettes un peu problématiques. Mais en tout cas, on s'inscrit dans l'héritage des problématiques initiées par Calcala et, comme je le disais, proposer un travail de traduction de textes inédits ou existants en français, anglais et arabe, tout en prenant en compte les histoires et les enjeux portés par ces langues. Et je voudrais juste citer un terme qui est très important pour moi ces derniers temps, qui est presque une méthode qui est proposée par la philosophe et linguiste Barbara Cassin, qui parle de l'intraductibilité, non pas comme ce qu'on ne peut pas traduire, mais ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. Et je pense qu'avec Calcala, on aimerait se mettre dans cet état d'intraductibilité, d'approcher ce travail de traduction à la fois comme un travail, comme une méthode, et aussi comme un objet, comme un contenu, en étant toujours dans une dimension de fragilité, de modestie, d'expérimentation, en remettant sans cesse sur le métier ce travail de la traduction et en le mettant en question. La dernière chose que je vais dire, et après c'est promis, je me tais, c'est qu'on ne va pas tout de suite relancer une plateforme en ligne avec des textes dessus, pour la très bonne raison qu'on est en train de chercher des financements pour ce projet, mais aussi parce qu'on souhaite consacrer la première année d'existence de Calcala à des conversations, des ateliers et des rencontres pour créer en fait une sorte de comité éditorial ou même de groupes de recherche autour de ce projet pour que ce ne soit pas quelque chose qui émane juste de Victorine et moi ou même des personnes qui nous entourent pour l'instant, mais plus largement que différentes personnes qui travaillent dans différents contextes soient aussi impliquées dans l'imagination de ce projet, à quels besoins il peut répondre, à qui il peut servir et comment est-ce qu'on peut l'inventer à plusieurs. Donc on est en ce moment en train de constituer un réseau d'interlocutrices et d'interlocuteurs, que ce soit des individus ou des organisations, notamment au Maroc, au Liban, en Grèce ou en Espagne. C'est tout ça est en cours de fabrication. Donc c'est presque un peu tôt pour annoncer la renaissance de Calcala parce qu'il n'y aura peut-être pas une visibilité publique immédiate, mais c'est aussi un appel ou une offre qui est faite de dire voilà, ce projet est en train de s'imaginer. Si des personnes parmi vous souhaitent participer à ces conversations, elles sont les bienvenues. Et je crois qu'il y a une petite feuille qui circule pour des personnes qui souhaiteraient voilà, plus pragmatiquement inscrire leur email. Merci Sophie. voilà, pour être tenu au courant des suites potentielles multiples que pourra prendre ce projet. Et je vous remercie encore aussi d'avoir accepté qu'il se poursuive et qu'il se continue et de perdre l'autorité, ce qui n'est pas toujours évident sur Calcala. Je suis très contente qu'elle puisse continuer à vivre comme ça et très contente de passer le micro à Lotte.
Merci Virginie. Et merci Émilie pour l'introduction. C'est super de vous entendre. Et en effet, comme Émilie vient de dire, on a rediscuté un tout petit peu du début de ce troisième numéro. Et c'est marrant parce qu'il y a presque 2 ans maintenant, on se disait on va passer à un autre rythme. On ne va pas attendre la sortie d'un numéro par an parce que c'est trop lourd, c'est trop lent. On a envie de quelque chose qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus dans la discussion. On veut qu'il y ait un texte qui sorte une fois par mois ou tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et là, on se retrouve donc 2 ans après à faire un lancement de ce numéro qui a suscité beaucoup de discussions et beaucoup de débats et beaucoup de processus au cours duquel les textes ont mûri, changé et se sont surtout recontextualisés. C'est peut-être un peu à cet endroit-là que j'aimerais bien introduire ce numéro parce que j'ai aussi repensé au moment où on l'a lancé et je me suis posé la question de ce pessimisme très fort de l'introduction et de la façon comment ce soir on peut repenser à ça. Donc, je vais un peu revenir à cette question de l'intro pessimiste parce que c'était un moment politique avec une élection aux États-Unis, avec des choses qui se passaient en Turquie, avec la Hongrie, avec des choses qui nous paraissent déjà très loin maintenant, alors qu'il y en a d'autres qui arrivent et qui n'ont pas changé la direction de ce qu'on était en train de vivre, mais qui déplacent les noms des pays où ça se passe, qui font qu'il y a en même temps quelque chose qui est changeant et qui nous amène ou qui nous laisse dans un même contexte très inquiétant. C'était un peu un moment où l'un des points de départ de ce numéro, de se poser la question, on est en train de vivre un moment où, et pour les institutions culturelles dans lesquelles on est en train de travailler, et pour le monde dans lequel on intervient, on vit un moment de repli autoritaire, répressif, régressif, à plein d'échelles. Et comment on pense nos pratiques à partir de là? Qu'est-ce que ça veut dire que de travailler dans ce contexte? Qu'est-ce que ça veut dire de se positionner? Quelle stratégie on a? Quels sont les endroits où on bute, on tombe dans des impasses, on n'arrive pas à trouver des réponses? Et comment c'est pensé dans différents contextes? Et du coup, il y a donc une série, Émilie l'a dit au début, il y a 4 textes dans ce numéro, et ces 4 textes n'ont pas été commandités au même moment, mais sont arrivés au fil des eaux, sont arrivés à des moments différents, et suite à des conversations différentes, et du coup, chaque fois, avec des contextes différents. Et je me suis dit, ce qui rend une revue ou un reader intéressant, c'est aussi ce fait que les choses arrivent à un moment particulier. Et peut-être c'est moins intéressant d'essayer de les synthétiser maintenant. En tout cas, c'est ce que je vais essayer. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Mais plutôt de garder un peu cet aspect éclaté de ces réponses en sautant dans différents textes et en les rendant aussi présents auprès de nous. D'un côté, ils sont là en tant que texte visuel, mais je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire un tout petit fil à travers certains textes, aussi avec certaines citations. Ça veut dire que j'ai une grande pile de papier devant moi. Je n'ai pas rehearsed, comme on dit en français. Voilà, alors du coup, on va voir si ça produit juste un grand désordre où je ne vais pas me retrouver ou si ça va fonctionner comme type de lecture. L'un des premiers moments qui me paraissait intéressant et qui du coup se retrouve dans le, dans le premier éditorial, c'était le fait de dire que malgré le pessimisme du premier constat, il y a une rare et une belle certitude que réserve le temps présent, qui est l'évidence que l'ici et l'ailleurs s'avèrent impossibles à séparer, que l'ici est autant dans l'ailleurs que l'ailleurs dans l'ici, et qu'aucune frontière ne pourra l'empêcher. Ce qui est peut-être une question que la suite de Calcala va reprendre et va retravailler. Et il y a Émile Hiach qui nous a donné la citation pour la suite en formulant le défi qui reste à devenir capable d'inventer collectivement des dispositifs qui nous protègent à la fois du désespoir et du cynisme, comme des paroles qui suspendent le cours habituel des choses et qui recréent du possible. À partir de là, on s'est posé la question comment on pouvait faire pour penser justement nos pratiques pas comme quelque chose qui jusque-là a été épargné par les coupes budgétaires, les agressions réactionnaires, le basculement final d'un gouvernement, toutes ces choses-là. Mais plutôt de se dire, si on est en train de faire, les activités qu'on mène maintenant, comment on peut faire face à ce qui nous entoure et ça veut dire quoi, justement, dans la traduction de nos pratiques. Et on a invité Nora Sternfeld, qui est basée à Vienne, pour nous parler de ça dans un premier temps. Et Nora a choisi de mettre en exergue dans son texte une citation de Marcelo Resende, qui est l'ancien directeur du musée de l'art moderne à Bahia, et qui date d'un entretien qu'il a donné en juin 2016. Et j'aimerais bien vous lire cette petite partie. Tout a été ébranlé par le contre-coup politique. Le combat continue, mais l'image est très claire. Le Brésil se trouve face à un putsch, un coup d'État mené par les forces de droite et d'extrême droite dans le pays. Et bien sûr, comme d'habitude, dans ce type de situation, la gauche a été incapable d'être, disons, une vraie gauche. En raison de ce climat ambiant, on m'a invité à quitter le musée d'art moderne de Bahia fin décembre. Mes fonctions de directeur étant considérées comme une menace politique pour la nouvelle administration de Bahia. Pourquoi ? Parce que pendant les 4 dernières années, nous avons remis en question la hiérarchie entre le musée, les visiteurs et l'État. Le Mamba est un musée public, voyez-vous. C'est étonnant de lire ça maintenant, après l'élection qu'on connaît, alors donc la suite de cette discussion qu'on connaît. Le texte développe un certain nombre de propos par la suite et finit sur une autre épisode de ce même directeur qui s'est en fait retiré avec 6 des autres curateurs du musée dans la forêt, dans le Brésil, pour y mener un travail d'enquête sur cette région même, et qui prennent donc l'option de dire, plutôt que de continuer à essayer d'être à la direction d'institution, ils se retirent dans la forêt pour pouvoir y développer une autre pratique. C'est au fur et à mesure des discussions vont émerger différents modèles, et je pense que j'aimerais bien les rendre un peu présents pour pouvoir les discuter peut-être par la suite. Le prochain modèle qui intègre, c'est pas un modèle. Bon, Nora parle aussi d'un auteur qui est Mark Fisher, que vous connaissez peut-être, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Capitalist Realism, et qui, quelques jours avant que Nora nous rende son texte, s'est suicidé avec le constat d'une lente annulation du futur qui s'accompagne de la déflation des attentes. Et on s'est donc posé, ou Nora s'est posé la question, face à ce tableau très sombre, quels sont des espaces d'expérimentation, quelles sont des stratégies pour se donner une autre forme. Je vous laisse découvrir son texte et notamment les parties qu'elle consacre au musée de la forme impossible, The Museum of Impossible Form, que vous allez voir dans son texte. Quant à moi, je vais sauter parce que Calcala nous a amené à nous dire qu'on ne restera donc pas au présent, mais qu'on va plutôt consulter un texte qui date de 1989 et qui a été écrit par Trine Minha et jamais traduit en français. Et la collaboration qu'on a eue avec la Maison des sciences de l'homme et Françoise Vergès nous a permis et amené à traduire ce texte « Histoire de grand-mère en français ». Et comme c'est un texte très poétique, je vais essayer de vous lire quelques passages plutôt que de résumer son propos qui résonne pour beaucoup avec les questions autour de l'histoire, de sa construction, des voix qui portent l'histoire, de sa transmission et de sa recontextualisation que pose Calcala en échange ou avec des allers-retours autour des espaces dans lesquels cette incorporation, cette mise en, comment on dit, quand quelque chose prend corps, incarnation de l'histoire peut se passer. Minha interroge le lien entre narration et incarnation en cherchant des modes de transmission qui divergent de l'autorité de l'histoire comme récit dominant, en proposant un langage poétique pour une pensée théorique qui dépasse la division entre théorie et pratique. Elle demande pourquoi cette lutte pour la vérité et au nom de la vérité. Je ne me souviens pas pourquoi. Je ne me souviens pas avoir demandé à ma grand-mère si l'histoire qu'elle me racontait était vraie ou non. Je ne me souviens pas non plus qu'elle m'ait demandé si l'histoire que je lui lisais était vraie ou non. Nous savions que nous pouvions nous faire pleurer, rire et nous faire peur, mais nous n'avons jamais pensé à nous dire « ce n'est qu'une histoire ». Une histoire est une histoire. Il n'y avait pas besoin de clarifier. Un besoin que de nombreux adultes estiment naturel ou impératif avec les enfants, car il ne s'agissait pas d'accepter aveuglément l'histoire comme si elle était littéralement vraie. Puis, elle affirme « Lorsqu'elle les nomme, les choses apparaissent. L'histoire ne nous raconte pas seulement ce qui s'est peut-être passé, mais aussi ce qui est en train de se passer, en un lieu et en une époque non définie. Elle incante rafraîchir, régénérer ou purifier, raconter des histoires et arroser les belles de jour en le même effet. Durant les années et des années, elle a régulièrement renouvelé ses forces pour qu'elles restent intactes. De telles ablutions rituelles, racontées et re-racontées, lui permettent de se souvenir des incidents survenus avant sa naissance avec autant de certitude que si elle en avait été témoin. Les paroles passées de la bouche à l'oreille, donc d'un organe sexuel à un autre organe sexuel, de matrice à matrice, de corps à corps, sont celles dont elle se souvient. Celles où celui dont le ventre ne peut pas contenir, lisait aussi conserver, les paroles, dites une chanson mandingue, n'arrivera à rien. Plus elle s'éloigne du ventre, plus elle sent susceptible d'être corrompue. Elle se moque. Mais il est particulièrement difficile pour un esprit binaire ou formé à un système binaire de reconnaître que chercher la structure de leur récit, cette formule-là, implique déjà de séparer la structure des récits, la structure de ce qui est structuré, le récit de ce qui est raconté, et ainsi de suite. Tout se passe, une fois de plus, comme si la forme et le contenu étaient séparés, comme si la structure pouvait rester figée, immuable, indépendante et inchangée par les changements que traversent les récits. Comme si une structure ne pouvait fonctionner que comme un moule standard, selon le vieux schéma déterministe de la cause et de l'effet. Et elle invite. raconte-la afin qu'elle puisse la raconter, afin que l'histoire excède sa mesure, excède toujours sa propre signification ou absence de signification. Dans ce vertige horizontal et vertical, elle poursuit l'histoire, motivée à la fois par le désir de la terminer et la nécessité de rappeler à soi et aux autres que ce n'est jamais terminé. Une histoire qui dure le temps d'une vie, plus longtemps qu'une vie. Une histoire qui sera reprise là où on l'a laissée, quand, peu importe. Et puis elle nous laisse avec ça. Et donc avec un passage à un quatrième texte qui était l'invitation qu'on a faite à Racha après une rencontre à Arles il y a un peu plus qu'un an et demi autour d'un texte que tu nous as présenté et lu là-bas et qui touchait à beaucoup de questions que Kalkala et que ce numéro de Kalkala soulève, notamment celle de raconter des histoires et par la façon de raconter l'histoire, de changer la capacité de faire émerger des choses qui ne peuvent pas être dites autrement. Et du coup, tu t'interroges sur ces modalités-là et tu trouves différentes formes que tu nous proposes donc dans un texte, dans le quatrième texte de ce numéro de Kalkala, et que tu nous proposeras aussi aujourd'hui avec une nouvelle proposition que tu vas faire. J'ai totalement, tu vois, je suis tellement... Virginie qui commence à rire parce qu'elle se rend compte qu'on n'est pas du tout au troisième texte et que ça me paraissait tellement clair de passer de Trimina... Alors je suis désolée, Racha, mais on n'est pas encore au quatrième texte. Parce que j'ai sauté, en fait, un élément central qui fait le lien entre les deux et qui est un artiste qui s'appelle Aykan Safoglu, qu'on a aussi rencontré. C'est, en fait, il y a pas mal de rencontres autour de ce numéro qu'on a rencontré en travaillant sur l'exposition de Candice Lin à Paris et qui a amené un texte qui s'interroge sur les politiques de l'amitié, sur les façons comment faire lien à travers des localisations géographiques différentes, dans des contextes de différentes façons, répressives de différentes façons, pour trouver des généalogies, pour trouver des liens autres que des filiations dans une verticalité. Et du coup, il commence à se mettre en lien avec l'artiste américain Paul Tech et à faire émerger à travers ses reliquaires technologiques et ses environnements et par un détour d'un monument du travailleur à Istanbul, avec une esthétique soviétique que vous allez voir dans l'une des premières prochaines images qui passent. Il tombe sur un secret familial qui est celui du suicide de son oncle, parti de la Turquie pour travailler en Allemagne dans les années 60. Et il commence à travailler sur cette histoire et à mettre en récit ou à mettre en lien ce corps mutilé du monument avec le corps mutilé de l'oncle disparu de l'histoire et réinscrit dans son histoire qu'il compose en tant qu'artiste à partir de ce détour avec Paul Tech et avec le monument à Istanbul. Il finit son texte avec une citation d'Audre Lorde. Et comme je suis un peu donc, dans la proposition de faire résonner autant de voix que possible, où il nous dit que ce sont nos sentiments qui sont les plus authentiques chemins vers la connaissance, donc avec une proposition très particulière sur comment travailler. Bon, avec ça... Je peux maintenant t'introduire, Racha. J'espère qu'il n'y a pas un autre texte qui pousse directement entre nous. J'avais prévu d'introduire un peu ton texte de la revue, mais finalement tu as décidé d'en parler, alors peut-être je vais juste te laisser parler de ce texte. Et je vous propose qu'on écoute Racha et sa lecture et qu'on vienne... Moi, j'avais l'impression qu'il y a plein d'éléments qui résonnent et qu'on revienne à toutes ces connexions dans la discussion après. Merci d'être là avec nous.
Merci beaucoup, l'auteur. Merci, Virginie. Merci, Émilie. Merci, Elodie, Sophie. I want to begin with thanking the marvelous team behind Karkala. Especially Virginie Bobin and Lotte Arndt for their invitation and the great team at Cadiste for hosting this reading. It is hard to claim a place of one's own in Paris, but I have been privileged to claim a community of my own, a tribe, so to speak. It started at the Laboratoire d'Aubervilliers with the luminous Natacha Petrescin and Virginie Bobin, and I remain grateful for their generosity, friendship, and relentless support. The text in Kalkala is the third part of a trilogy that I have titled Be Still, My Beating Heart. It was composed like a fugue in three movements or in three parts. The first two were written upon an invitation to give a curator's talk at the Homeworks program in Beirut by the Zagreb-based curatorial collective VHV in 2015. The third part was written on the invitation to the conference Curating the Global, Challenges of the Present, and I forgot the rest. I just didn't understand what they wanted, and I proposed to write a short story, and it worked out. So the three texts were really inspired, or I want to cite, I mean, it's an evening of citing. I will cite a man, unfortunately, but sometimes one has to. The question running, so this is a citation from an interview with Achille Mbembe in the Revue Esprit, which appeared in 2008 on the occasion of his publication of the book on the post-colony. Achille says, "The question running through my book is this: what is today and what are we today? What are the lines of fragility, the lines of precariousness, the fissures in contemporary African life? And possibly, how could what is be no more? How could it give birth to something else? And so, if you like, it's a way of reflecting on the fractures, on what remains of the promise of life when the enemy is no longer the colonist, in a strict sense, but the brother." So the book is a critique of the African discourse on community and brotherhood. So it can be said that it is concerned with memory only insofar as the latter is a question. First of all, of responsibility toward oneself and toward an inheritance. I'd say that memory is above all else a question of responsibility with respect to something of which one is often not the author. Moreover, I believe that one only truly becomes a human being to the degree that one is capable of answering to what one is not the direct author of, and to the person with whom one has, seemingly, nothing in common. There is truly no memory except in the body of commands and demands that the past not only transmits to us, but also requires us to contemplate. I suppose the past obliges us to reply in a responsible manner. So there is no memory except in the assignment of such a responsibility. I cite this passage because it contains several of the cardinal motifs that serve as anchors or coordinates to my own curatorial practice, living and working in geographies of precariousness, fractured social bodies, where the enemy is the brother, rather than the outsider, and where the futures are in ruin. Memory, responsibility, transmission, and bequeathal. These are recurring notions and questions that inform and torment how I perceive meaningful, urgent, and subversive curatorial practice. Contemporary art theory, curatorial and artistic practice have engaged in many ways and at several levels with the complexities and the mysteries of memory, remembrance, affect, archival traces, documents, rumors, hearsay, forensics, etc. In the end, the stakes lie in the act of retelling and in the reconstitution of a forgotten, silenced, or unwritten event or practice. In the course of various research projects that have preceded or shaped my curatorial work in film and art, I have come across situations, sometimes during interviews, where I have totally failed to find the right framework or syntax to transmit what I have been intimated. Interviews involve delicate staging. There is a form of seduction, indulging the vanity of an interview, building trust and complicity to frame the bequeathing of private information or knowledge. We always fictionalize past, present, and future. But when I have been entrusted with secrets and promised not to repeat them, the only guise in which I have been able to retell them is fiction. Fiction has afforded me the safety and the impunity to reiterate the unsayable and unlock secrets by exploring a recent past that has been severed from its facts and documentary traces. Fiction also allowed me to unbraid the complicated weave of the double language that shapes our perception of the world, the pervasive hegemonic language used by officialdom, governments, media, global corporations, and the language of our lived experience that sometimes challenges or undermines the first. So, Be Still My Beating Heart, I said, was a trilogy. The first part told the story of an artist, an Iraqi artist who's been supposedly forging paintings and selling them on the market in total complicity with auction houses. The second story imagined the diary of an Italian man who was an Italian Egyptian who was living in Egypt in the 40s and who was working for a very wealthy Egyptian man, and who basically appears in the diary of Jean Cocteau when Jean Cocteau traveled with his troupe and presented a play in Alexandria, Cairo, Beirut, and Istanbul. And I didn't know that diary existed. It doesn't appear very often in Jean Cocteau's bibliography. It's called Malish. And Malish is Arabic for ça va, laisse passer, it's going to be okay, I will let it pass. And it's a very funny and also infuriating diary. But so this character, Carullo, appears. He was assigned to handle Cocteau, who's a diva. And what I did was try to imagine diary entries in Carullo's, from Carullo's point of view, as opposed to Cocteau. The third one is the one that appears in Qalqala, and it's set in the present time, and it imagines a strange hostage taking in the museum, in the modern Arab the Arab Museum of Modern Art. With all this talk about, returning ISIS-Daesh combatants and the question in Europe of whether they can be rehabilitated or put on trial. And Qatar being in the doghouse, so I imagine that Qatar was hosting them and that somebody decided to take them to the museum. So, it's the beginning of a thriller. But for tonight, I mean, of course, the obvious thing was to read that passages, at least from that text. But lazy people like me wait for generous and affectionate invitations from beloved friends to dare an experiment. And so I decided that maybe I should do something else. And over the years of working as a freelancer of frequent travel, I have been accumulating small texts that don't quite have a place to exist, that are neither material for conferences nor for serious papers or arguments. And yet they are vital to me because they testify of my own lived experience, of events that I have witnessed or observed, and inform my curatorial practice at its core. They are, in a way, how I read images, decode poetics and signification, and perceive urgency. So tonight, for the first time, I want to read a series of these anecdotes or vignettes from my quotidian and that have marked me. And I think of them as the inside lining or the seams of my curatorial practice. And I thank you for your patience ahead of the reading. So, Rabat, 2004. The troupe had rehearsed in the hallways of the National Theatre for weeks. They were only allowed to use the theatre itself on the day before the premiere. National Theatre troupe and National Theatre are two distinct entities in Morocco, a tribe and a space with two separate destinies. Their national missions merge strictly on the occasion of performance. The premiere was planned to inaugurate a revisited performance of Molière's Tartuffe, restaged in vernacular in Darija, and with a tribute to Bertolt Brecht. The director of the national troupe was of that generation, to whom Brecht provided a limitless wealth of imagining new representational and expressive fields. The director of the National Theatre was of the same generational bracket, also professed to be an adept of Brecht. Tartuffe was cast as he appears to us in all our present-day world, where conservative religiosity gives moral high ground and authority for men to sermonize, censor, and minister violence and abuse. At the National Theatre that night, Tartuffe was cast as one of the hordes of the commonplace fundamentalist Islamist. In honor of Brecht, he was lodged in the front rows between officials, ministers, and notables, to whom front row seats are customarily reserved. He sat seemingly unobtrusive. No one took particular notice of a social agent in that demeanor, lodged in the seat in the front row. The audience of the premiere streamed in, and the play opened. As the performance unraveled and everyone waited for the notorious "Cachez ce sein que je ne saurais voir," a menacing man, cloaked in the dress of fundamentalist, rose from his seat in the front rows of the theater and shouted, "Tsitri ya hurma," woman, cover yourself. The audience gasped and froze in horror. The man continued ranting, sermonizing, and walking towards the stage. The director of the National Theatre leapt from his seat towards the security guards. His worst nightmare had become real. Islamists had invaded his theatre, and officialdom was in harm's way. Tartuffe continued his performance and climbed on stage. The audience applauded. Barely a few minutes had passed when the director of the National Theatre erupted back into the room, breathless and flanked by security guards brandishing their weapons. He froze as he saw the fundamentalist terrorist standing on stage in the midst of the performance. The audience exploded in laughter. Damascus, 2005. Too many. Youssef Abdelki exhibited exactly what the images of his drawings represent: skulls of animals, dead fish, shoes, a banana, a rose, a lily, a porcelain tea set, and a fist. Exactly what the title of each drawing announces the image represents, all except for the fist. Clenched tightly, stubbornly as it were, amputated right above the elbow, the drawing's title read, "Homage to the generation of the 70s. Nature morte," displayed the title of the exhibition, displayed masterful craftsmanship in cross-hatched charcoal, in sinister octaves of a chiaroscuro, darker than is warranted by the conventions of nature morte. The exhibition displayed in Khan Asad Basha in the heart of the Hamidiyya Souq marked Abdelki's long-awaited return to Damascus. On a first walkthrough, these seemingly unfeigned drawings left one with the unexpected chill of a muffled horror, a still fear. The scent of dread was not only evoked in the macabre echoes of the palette, but also in the serial scales of surreptitious departures from convention that the artist had undertaken. The perspective, for instance, was gently askew, enough to sidestep realism, enough to betray the rules of perspective. The compositional elements were coupled uncannily. A dead butterfly lay next to the skull of an animal, not far from the graceful lily sprouting from a thin vase, lay a bare bone. The size of each image, either larger than customary for drawings or disproportionately tall or wide, was also a departure from convention. Certainly the persistence of dead fish and the animal skull as subjects for representation, their eye sockets agape and teeth protruding, accentuated that grisly chill. On the second walkthrough, the charcoal cross-hatching seemed to have magnetic power. The rendering of the objects was realistic enough that one could still identify the form for what it was, the fish for a fish, the shoe for a shoe, but they breathed with life. The fish, although dead, seemed to gaze back with the incriminating despair of a living being that was just robbed of life. The hollowed sockets of the skulls stared back as well. The masculine shoe, its broken leather exhausted from wear, its laces undone, spoke to the everyday burdens of white-collar work. The feminine shoe, its uneven bulges molded from endless pain-stricken hours of wear, spoke to the temerarious attachment to social status. Carved from darkness, not from light, as they faintly, slowly begin to pulse with life, these commonplace objects, staged as nature morte, were emblems. The identification with the object they depicted morphed. No longer was the fish merely a fish, it was a life robbed. No longer was the skull merely a skull, but the carcass of a life caged in a closed and dark box. And the shoe no longer merely a shoe, but the outfit for the dream of a life with dignity postponed, worn out. Signifiers morphed into signifieds. The fish, the lily, the shoe, and the dainty porcelain set began to unravel other identifications. They resurrected echoes of what they represented in essence, that frozen, frightful moment of bearing witness to lives being robbed, lives imprisoned in dark boxes, and dreams expired to a last sigh from obeying to the rules of a system. The shoe was no longer a shoe one had seen, a shoe one knew, a shoe one owned. It became the emblem of what one had always been too scared to see, the representation of one's life, anonymous, dispirited from one's subservience to a system that swallows human beings and turns them into anodyne emblems. That system where grace and beauty, such as the lithe and proud lily, cannot be dissociated from the death of some other life. These are not charcoal renderings of nature morte. They are visual representations of the metaphorical power of emblems. Far from being morte, they thumped with a life at the liminal edge of death, which stubbornly refuses to surrender. A life haunting to bear witness, unmask, attest. Nothing was what it seemed to be, except for the singular drawing of the fisted hand, titled explicitly as an homage to the art from the artist to the generation of the 70s. Its power was allegorical, its story told by all the other drawings in the show. The fist was defiantly stiff, its muscles and veins tightened with a fierce strength, despite the fact of its amputation. The generation of the 70s in Syria, broken, humiliated, defeated, exiled, jailed, tortured, killed, betrayed, still had the fight in its soul, its fist yet to be undone. its body rendered to carcasses, skulls, shoes, will always be haunting with its incriminating gaze. On the night of the opening of the exhibition, thousands streamed in from all walks of life. Among the thousands were hundreds of that generation from the 70s who traveled from all over the country to come and pay tribute to their brother in arms. Youssef Abdelkay, jailed numerous times for his political beliefs, had been forced into exile 25 years earlier. This exhibition of drawings was the first occasion for his return. Writing in Mulhaq al-Nahar, Muhammad Ali Atassi tried to count the years robbed from their collective lives spent in detention. He titled his piece, A Thousand Years in Detention and Hope Under the Same Roof. One after the other, they took pictures of themselves with him, their hands clutched together, their fists hugging warmly against the background of ashen renderings that dared to represent what had been forbidden from representation. And the final vignette is Beit al-Din, 2016. Her long curly red hair seemed like a mane on fire under the projectors. She dyed it in red. It amplified the aura of a diva. Lena Shamamyan was born in Aleppo to Armenian survivors of the genocide but had been living in Paris for a few years. A well-known soprano, she sang in Arabic and Armenian. The range of her repertoire was impressive. It extended from classical Arabic music, traditional Armenian folk song, and Western opera. The year was 2016. I was with my family attending her concert at the Beit al-Din festival in the Lebanese mountains. Aleppo was under siege, and Lebanon hosted more than 1 million Syrian refugees, the largest bulk of whom lived in camps, in tents. After the first song, she spoke in Arabic. Her accent was distinct. She evoked Aleppo under siege. Lebanon's population, including the Armenian communities, is divided over taking sides in the Syrian conflict. Almost half support the Assad regime, and the other half wants to see him unseated, finished. There was no way to decrypt the political leanings of the audience. Shamamyan's repertoire was rarely political or polarizing anyway. There was unspoken consensus, however, that the 1.1 million refugees were a genuine burden on the country's economy and political future, even though international aid dispersed through Lebanese organizations had actually generated concrete benefits. After the third song, Shamamyan paused and told us that she wanted to sing an old Armenian folk song, a cappella. Her voice dropped an octave. It was grave, somber, and lamenting. And when the refrain came, she translated one sentence to English. Soon we will be gone over the mountains. I was intrigued by her choice of lament. For Armenians, the promise of return is so crucial because it anchors their identity and keeps the memory of the genocide and forced displacement alive. Their national mountain, almost sacred, is Mount Ararat. I sensed, however, that the audience did not see her as an Armenian, but rather as a refugee from the ruins of Aleppo, who was promising them all that all refugees would be going home soon. The daughter of children of survivors of genocide had flown all the way from Paris, dyed her hair red, sung songs to lull the elite of a country in tatters, suddenly transformed into a refugee, ashamed to have overstayed, promising her benefactors that soon she and the other million refugees would go home across the mountain. Thank you.